antenne, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à minuit et j'espère que vous allez bien. Une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a inspiré ou marqué dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « jalousie ». Nul n'est besoin de rappeler ce qu'est la jalousie, n'est-ce pas ? En revanche, la question est plutôt comment la gérer, la contrôler et même parfois l'éliminer. Est-ce possible ? Dès que l'on se compare à quelqu'un, la jalousie est en embuscade. Chaque fois que son conjoint ou sa conjointe sent une eau de toilette ou un parfum inconnu, la jalousie se réveille et met tous les sens en alerte, parfois jusqu'à la colère. Si elle exerce son pouvoir pour nous pousser à atteindre un objectif que d'autres ont déjà dépassé, elle génère de l'envie, un facteur de motivation positif. À l'opposé, si elle conduit à l'obsession accompagnée de reproches et d'envies outrancières de ce qu'ont les autres, elle joue un rôle perfide, négatif. Qu'en est-il pour vous ? Êtes-vous jalouse ou jaloux ? Mais de quoi ou de qui ? Qu'est-ce que la jalousie vous a poussé à faire ? Et l'assumez-vous ? Appelez-nous au 3921 pour partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qui est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Bastien et Adrien sont fidèles toujours au poste et vous répondront au standard du 39-21. Et c'est El Maestro, Laurent Pelé, qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1.
Sana Blanger.
Nous accueillons notre première auditrice et c'est Marie. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci, merci de m'avoir reçue.
Ben, c'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive Marie ?
Je reviens vers vous pour une deuxième fois parce qu'on s'est déjà eu au téléphone.
Oui.
Il y a deux ans.
Il y a deux ans.
Oui, c'était au mois d'août, en 2020.
Qu'est-ce qui vous était arrivé à cette période ?
C'était la situation compliquée avec ma psychologue, qu'il ne donnait pas des nouvelles et que ça commençait à... Enfin, j'avais plus de la frustration ou plus de la colère par rapport à la situation.
Ça y est, je m'en souviens.
Oui, que je venais d'îles Outre-mer, du coup c'était...
Absolument, et vous aviez beau... Ça s'était très bien passé au départ, et ensuite, plus rien.
Oui.
Et vous aviez beau lui laisser effectivement des messages, vous n'aviez pas de réponse.
Oui.
Ouais, ça y est, je m'en souviens.
Oui,
d'accord.
C'était le médecin généraliste qui prenait souvent le relais à cette situation, parce que c'était pendant le confinement.
D'accord. Alors, qu'est-ce que je vous avais conseillé à l'époque ou qu'est-ce qui s'était décidé ?
Que cette période-là, il y avait beaucoup de gens, ils étaient devenus bizarres ou peut-être qu'elle avait des problèmes personnels ou... En fait, vous faisiez l'avocat du diable, on va dire.
Comme souvent d'ailleurs, pour essayer de comprendre en fait.
Oui.
Et on travaille ensemble.
Vous avez même employé aussi le mot, c'est pour ça que c'est revenu tout de suite aussi.
Oui, absolument. Bon, est-ce que vous avez eu alors des nouvelles depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
J'ai eu des nouvelles, mais la situation ne sont... Aujourd'hui, la situation n'est pas du tout arrangée. Je dirais même devenue encore plus compliquée pour ma part en tout cas.
Ah.
Du coup... Je suis encore plus, on va dire, plus en colère ou plus déçue, on va dire. Par rapport à ça, j'ai une grande blocage pour avancer ou pour voir une autre psychologue.
Mince. Vous alliez la voir pour quelle raison, Marie ?
C'était suite à une agression que j'avais subie.
D'accord. Donc, vous étiez en situation de ce qu'on appelle de stress post-traumatique.
Oui, parce que par rapport à ça, juste avant le premier confinement, on avait aussi commencé les séances d'MDR à l'époque.
C'est ça.
Et que c'était en plein cheminement et le Covid a tombé, le confinement a tombé. Et du coup, on était obligé de tout stopper. Après, il n'a jamais voulu reprendre les séances.
Alors Marie, vous nous dites que la situation, enfin vous vous sentez encore plus en colère. Est-ce que c'est par rapport à votre état ou cette colère, c'est plus vis-à-vis de quoi ou de qui ?
Je dirais plus c'est une généralité. En fait, c'est comme si je suis en colère vers moi-même, mais aussi vers elle aussi. Du coup, c'est une généralité. En fait, c'est comme si... parce que la manière où ça s'est fait, je ne m'attendais pas du tout. Mmh. La manière où c'était dit, je m'attendais encore moins. Et je pense que c'est plus ça qu'aujourd'hui, j'y arrive toujours pas à... Je pense que accepter les choses, je pense que c'est autre chose. Et faire comme si rien n'était, c'est autre chose. En fait, c'est ces deux-là que j'y arrive pas à les gérer ou à les coïncider. Je pense que c'est ça d'où vient. Je pense que c'est là où d'où vient ma colère vis-à-vis d'elle, mais aussi la déception aussi. Après, je me dis, c'est une psychologue, elle est là aussi pour me conseiller, pour me guider, mais j'ai l'impression comme si c'est plus elle qui... Je ne sais pas. Ça...
Ce qui est d'autant plus intéressant dans votre cas, c'est que ça fait quand même 2 ans et que une psychologue, il n'y a pas de lien d'affect normalement. Vous voyez, on n'est pas là. C'est comme si quelque part vous faisiez un transfert, mais normalement, il n'y a pas de lien hormis j'arrive, j'explique mon état, on travaille sur cet état, je paye la personne et je m'en vais.
Oui, après l'agression, en fait, j'avais du mal à... Parce que la dernière fois, je vous ai parlé que j'avais confiance à elle, que j'avais mis ma confiance à elle, que je m'étais engagée. En fait, je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, qui fait pourquoi je me suis aussi ouverte au qu'au final, ça retourne contre moi. En fait, j'ai cette sensation-là.
La relation du patient et de son psy. Est-ce que vous avez contacté d'autres psy depuis, comme je vous l'avais vivement recommandé, ou pas ?
J'attendais entre-temps, j'ai pas eu le courage, mais j'attendais aussi que j'attendais aussi si on allait continuer ou pas. Et je savais que ça pouvait être positif comme négatif, mais je ne m'attendais pas à ma réaction. Enfin, c'était plus ma réaction que je ne m'attendais pas du tout. Du coup, ça m'a complètement bloqué. Ça m'a complètement... c'est comme si ça m'enfermait sur moi-même. Du coup, j'ai peur de commencer quelque chose. Parce que j'avais, à l'époque, je disais que je ne voyais pas à commencer cette...
Absolument.
Des séances avec d'autres, en fait, c'est comme si ça a confirmé mes peurs ou ça a confirmé mes doutes.
Et pourtant...
Et jusqu'à maintenant, ça...
Oui.
Et jusqu'à maintenant, ça reste comme ça. Je n'arrive pas à dépasser ces stades-là. Je n'arrive pas à...
Alors, de quoi avez-vous besoin, Marie, pour dépasser cela ?
Je pense que... Déjà, peut-être sortir cette colère-là de moi-même. enfin, après vis-à-vis d'elle aussi, de me dire que c'est passager et que c'est normal, que normalement, tôt ou tard, la suivi allait arrêter, mais le fait que ça s'arrêtait comme ça, ça. Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas.
Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue ?
Non, elle travaille toujours dans le même endroit. En fait, je pense qu'elle travaille toujours dans le même endroit jusqu'à maintenant.
D'accord.
Et en fait, là où ça me met plus en colère, parce que quand j'ai réussi à la voir au téléphone, nous, on s'est eu en août. Moi, j'ai réussi à la voir fin décembre.
Mmh. Ah oui.
Et même entre-temps, j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, et aussi des messages. Et il n'y a jamais eu de retour jusqu'à ce que mon médecin généraliste prenne le relais, parce que je pense qu'elle avait été fatiguée de me voir tout le temps dans les états pas possibles. Du coup, c'est elle qui l'avait contactée directement. Et après, elle m'a dit que je pouvais la rappeler le lendemain. Du coup, moi, je l'ai appelée le lendemain. Et par téléphone, elle m'a dit, la psychologue m'a dit qu'elle ne pouvait pas continuer les séances parce que c'est passé plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'elle préférait arrêter. Je pense que c'est plus ça qui m'avait mis en colère parce que je me dis, au fond de moi, c'est pas une raison. Hein. Si elle m'avait dit qu'elle avait d'autres obligations ou qu'elle quittait la région ou que ceci, mais le fait qu'elle me dise que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'elle préférait arrêter, je pense que c'est plus ça. Sachant que pendant le confinement, ça n'allait pas du tout, que j'avais laissé des messages, que ce soit vocal ou par mail, mais le fait que je n'ai jamais eu de retour, je me disais peut-être qu'elle aussi elle était malade ou que... En fait, je me trouvais plus ou moins peut-être des excuses pour me dire ça va reprendre avec le confinement. C'était compliqué pour tout le monde.
Je comprends.
Et surtout par rapport au message que j'avais laissé.
Je comprends.
Quand elle m'a fait le retour qu'elle préférait arrêter parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Je comprends.
Ça a réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures.
Oui, certainement. Alors, moi, je comprends parfaitement ce que vous pouvez ressentir et je comprends parfaitement que vous soyez dans cet état-là. Est-ce que, Marie, si vous arrivez néanmoins à la voir, d'accord, vous prenez un rendez-vous, en étant malin, quitte même à vous faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous vous retrouvez face à cette psy, si vous lui dites, si vous verbalisez toutes les émotions, tous les sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle, cette rancœur aujourd'hui qui est présente, est-ce que ça vous fera du bien ?
Je pense que oui, mais est-ce que c'est nécessaire ? Enfin, est-ce que je ne serais pas encore plus déçue ? Je ne sais pas. Mais par contre, j'avais parlé mon médecin généraliste qui me suit. Elle aussi va partir, enfin, elle va quitter la région. Du coup, ça remet encore une couche. Après, j'ai compris que elle me l'a dit plusieurs mois en avance pour m'y préparer. Et je suis un peu triste, mais il n'y a pas de colère parce que je me dis c'est normal, c'est ça. Mais à chose comme si ça, au début, ça...
Mais au moins, vous êtes prévenu. Votre médecin généraliste, elle vous prévient. Alors que là, la psy, c'est tombé comme ça, comme un couperet. Vous avez eu presque un sentiment d'abandon. En plus, vous en aviez besoin parce que ça faisait partie de la thérapie. Hein. Vous étiez en train de cheminer. Il y avait une relation de confiance qui s'était instaurée. Vous avez énormément parlé de vous. Vous vous êtes dévoilé. Hein. Oui. C'est ce que vous nous expliquez, ce qui n'est pas forcément dans votre nature.
Je pense que c'est la personne à qui j'ai plus dévoilé par rapport à la situation, par rapport... Je pense que je n'ai jamais parlé, même mon entourage, même mes amis, je ne les ai jamais parlé parce que je m'ai toujours mis que mes amis, ce n'est pas des professionnels. À tout moment, on peut disputer, à tout moment, on peut se clasher. Je ne veux pas que ça tourne contre moi. En fait, il n'y a que elle Il n'y a que elle-même, quand ça n'allait pas, il fallait que je tourne vers elle. Je ne pouvais pas parler avec ma famille parce que ça s'est passé mal. Et je ne pouvais pas non plus parler avec des amis parce que j'avais peur que ce rejet-là tourne contre moi. Je me dis, la meilleure façon, c'est peut-être me tourner vers un professionnel. Au moins, si les choses passent mal ou bien, je sais qu'il y aura quand même cet respect-là pour bien me sûr. Dire que ça ne serait pas...
Ça là-dessus, ça serait pas tourné contre moi. Ne remettez pas en cause là-dessus, vous avez été, c'était très sain d'aller voir et c'est tout à fait ce qu'il faut faire quand on a subi un traumatisme et une agression, en l'occurrence, en ce qui vous concerne. Maintenant, encore une fois, j'entends, hein, vous êtes en boucle, donc ce qui, clairement, vous êtes en boucle depuis 2 ans là. Donc, ce qui va être important quand même pour vous, hein, c'est de sortir de ce schéma. Maintenant, vous êtes constamment en boucle à vous dire « Et pourquoi ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez dit « j'ai pas le courage. Je n'ai pas trouvé le courage. » D'accord ? C'est le mot « courage », hein, qui revient. Et le fait de ne pas le trouver, ça vous met encore plus en colère. Bon. Pourtant, vous l'avez compris, il faut arrêter de subir. Et aller la voir. Même si vous avez, vous, le sentiment, vous vous dites « Oui, peut-être que si elle voit mon nom, elle va refuser de me voir. » Eh bien, changez d'identité. Faites-vous appeler comme vous voulez. Choisissez le nom que vous voulez. Vous prenez un rendez-vous et vous allez la voir. Arrêtons de subir.
J'ai pensé à autre chose. J'ai parlé récemment avec mon médecin parce que la situation basculait. En fait, c'est comme si le traumatisme ou la peur avec la psychologue, ça revenait le fait qu'elle aussi, elle allait partir. Du coup, c'est comme si je me disais qu'est-ce que ça va se passer les premiers jours ou le jour où vous allez partir. Parce que je me dis, vous êtes la seule repère que j'ai en ce moment. Et elle m'avait dit d'écrire une lettre avec tout ce que j'ai envie de dire. Que je l'envoie le lettre par mail, parce que par courrier, on n'est pas sûr d'avoir une réponse, on n'est pas sûr de savoir si elle a réussi ou pas. Après, de ne rien attendre de réponse, mais au moins, elle aura la réponse. Enfin, elle aura ce que moi, je pense ou ce que moi, j'ai envie de dire.
Oui. Alors, ça, c'est également une autre solution qui est excellente. C'est effectivement de poser vos mots, M-A-U-X, hein, pour le coup, et de lui expliquer l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, de lui dire, voilà, suite à ce que vous m'avez fait, voilà comment moi, je suis. Alors, vous avez reçu un SMS de Marlène qui dit « Changer de psy, ne pas se bloquer. »
Ça,
c'est malheureux.
Ça, mon médecin me le dit souvent, mais pour l'instant...
Oui, vous n'avez pas le courage.
Ça paraît plus facile de le dire, mais
absolument.
Sur les actes, ça,
oui,
c'est comme si l'esprit ne suit pas.
On a bien compris, hein, Marie, on a bien compris que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est en cela que je vous dis... Dans ces cas-là, de quoi avez-vous besoin ? Et ça, c'est très important. C'est de quoi ai-je besoin pour pouvoir me sortir de, clairement, je vous dis vraiment, c'est cette spirale qui n'est pas bonne pour vous. Il y a presque double traumatisme. Il y a à la fois cette agression que vous avez subie, et en même temps, l'abandon, ce sentiment d'abandon de ce psy. Et encore une fois, attention aux liens que vous créez, aux transferts que vous créez. Ça, ce sera très intéressant également de le travailler avec votre prochain psy. Donc, Marie, là, vous avez 2 solutions. La première, c'est soit effectivement de la voir, si vous avez le courage également de vous retrouver face à elle et de lui dire dans quel état vous êtes aujourd'hui, parce que ça, c'est cristallisé là, hein, clairement. Ou deuxième solution, de lui envoyer un email avec accusé, vous savez, les accusés de réception pour voir si elle a bien lu ou pas le mail. Ce qui déjà pourra vous rassurer. Et je suis entièrement d'accord et je rejoins le conseil de votre médecin. Surtout, n'attendez rien en retour.
Moi-même, je m'attends pas non plus de retour, mais juste que... Parce que je me dis, pour passer à autre chose, moi, j'ai peut-être besoin qu'elle sache aussi mon état psychologique, comment j'étais, enfin, comment je suis jusqu'à maintenant. Parce qu'entre-temps, j'étais aussi hospitalisée, parce que j'ai fait aussi des... Suite à ça, j'ai fait aussi des... des tentations, enfin j'ai eu des idées noires parce que c'était assez violent. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était tellement violent que je ne m'attendais pas à ça. Enfin, surtout par rapport à surtout par rapport au contexte, je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Même oui. Si au fond, il y a eu quand même ces doutes, mais on dit c'est quand même des doutes, c'est moi qui imagine ça. Mais dire que ça confirme, voire même pire de ce qu'on pouvait imaginer, ça...
Eh non, mais tel que vous nous le racontez, c'est comme si vous aviez vécu une trahison.
Oui.
C'est exactement la même chose.
Et,
ouais.
ça, en fait, c'est comme si pendant, juste après l'agression, quand j'avais parlé, enfin, quand mes parents ont su, ils avaient tellement mal réagi par rapport à la situation. Et voir que ici c'est pareil, et pourquoi je me dis c'est la personne que j'avais confiance, c'est la personne que j'ai pu parler, c'est la personne qui connaît tout, de la prendre comme ça, enfin que les choses tournent comme ça, c'est comme si je ne sais pas si c'est le transfert de mes parents qui vient vers elle ou c'est le transfert de la situation d'elle-même qui s'est tournée. Et pourtant je me dis, pendant plusieurs années, ça s'est toujours bien passé. En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Oui.
Qu'on n'a pas eu de différends, que ça s'est toujours bien passé. Et c'est là parce que s'il y avait déjà des malaises ou s'il y avait déjà des choses qui n'allaient pas, peut-être que je peux mettre en doute ou je peux dire peut-être parce que voyez que ça n'allait pas. Mais le fait que parce qu'on ne s'est pas vu pendant le confinement, elle préfère arrêter et c'est tout. En fait, pour moi, ce n'est pas une raison. Et moi, j'ai besoin vraiment d'une raison ou quelque chose que moi, je peux me dire, OK, ça se passait comme ça, elle a préféré arrêter, c'est normal ou pas, mais en tout cas, quelque chose qui tient la route pour moi, pour passer à autre chose.
Oui. Alors, c'est vrai que je vous parle, vous, de l'attachement que vous avez pu avoir avec elle. Après, vous savez, j'étais en train de me dire que peut-être qu'elle aussi s'était attachée à vous et la raison pour laquelle elle ne souhaite pas vous voir, c'est parce que voilà, il y avait un attachement profond. Ça aussi, on n'y a pas pensé, mais ça peut faire partie d'une des réponses en tout cas. Mais voilà. Alors, il y a un SMS qui vient d'arriver de Laurence.
Oui.
Quand elle va la voir, elle ne voudra jamais la recevoir, même si elle change de nom.
Pourquoi?
Ce que je comprends de ce que je pense hein, veut dire Laurence, c'est...
Si moi je me présente, elle va refuser parce que c'est moi.
Voilà, elle va vous reconnaître, elle va dire non, je ne veux pas vous voir. Bon, qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, il vaut mieux tenter quelque chose hein, plutôt que de subir, encore une fois. Donc, soit vous y allez physiquement, soit sinon, vous lui écrivez. Mais toujours est-il, Marie, stop, arrêtez de rester comme ça, ça n'est pas possible. C'est pour vous, c'est pour votre santé, voyez. Vous êtes après, on est dans la, on somatise complètement. Donc non, ça suffit. C'est important pour vous de voir un psy. Oui, la colère.
Pour la lettre, je pense que ça c'est plus adapté par rapport à la situation, parce que je ne veux pas mettre de tension sur les tensions que j'ai déjà, parce que ça doit être
alors
ça
écrivez.
Demande beaucoup
écrivez
ça demande
Marie.
Beaucoup d'efforts pour y aller, parce que je me dis ouais. C'est quelque chose de très fort de me présenter comme ça.
Alors utilisez
ça
la colère
l'angoisse.
Marie, utilisez votre colère et écrivez-lui cette
okay.
Colère, utilisez-la, écrivez-lui.
Et la lettre est déjà faite.
Ah bah d'accord.
La lettre est déjà faite. Là, demain, c'est le dernier jour où je vois mon médecin généraliste.
D'accord.
Et je voulais quand même la faire voir s'il est bien ou pas. Enfin, je voulais quand même une avis d'extérieur si je ne suis pas trop agressif ou pas. Je voulais que soit quelqu'un d'autre me relie pour voir si...
Alors, il y a une méthode qui est très intéressante pour verbaliser les choses. Et quand on est dans la bienveillance, hein, c'est ce que j'expliquais hier, le mot. Alors, c'est une méthode de communication non violente de la CNV qui s'appelle DESC. D-E-S-C. En fait, donc, vous commencez la lettre par une description. Donc, vous décrivez la situation. Ensuite, vous y mettez vos émotions. Ensuite, les solutions et votre conclusion. Et là, je dirais, la condition pour que le message passe, c'est vous dites « je » à chaque fois.
Je. Si à chaque fois je parle de « je », je...
Voilà, jamais vous. C'est exactement
non,
ça.
Non, je parle de, bon, je bah, parle de moi et ma situation.
Donc, desk, description, émotion, solution, conclusion. Vous écrivez avec cette trame-là et normalement, ça devrait plutôt très très bien se passer. En tout cas, le message sera bien reçu.
Mais et d'un côté aussi, je me demande, parce qu'elle m'a quand même suivi plusieurs années, je me dis, c'est comme si je balayais tout ce qu'elle a fait. Et ça aussi, ça me met mal à l'aise, parce que je me dis, à un moment donné, elle était quand même là. Pourquoi lui reprocher que ce qui ne va pas? En fait, c'est juste, des fois, je me dis, elle a toujours été là auparavant, et par rapport à cet arrêt, c'est comme si ça a tout gâché ce qui était s'est passé avant. Et ça aussi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi je ne reconnais pas ce qui s'est passé avant? Pourquoi je reconnais que quand ça ne va pas?
Eh bien, je vais pouvoir peut-être vous aider à répondre à cette question juste après la pub. À tout de suite.
D'accord. Ok.
Marie, pour répondre à votre question, pour quelles raisons est-ce que j'ai tendance à plutôt ruminer ce qui est négatif que de garder le positif? C'était votre question juste avant la pub. Eh bien, parce que nous sommes tous ainsi faits, c'est-à-dire que le bonheur ou les choses positives, finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. On se dit, bon, bah, je suis bien, je suis heureux, et il n'y a pas de charge mentale, il n'y a pas d'analyse parfois à faire, voire même, on ne s'en rend même pas compte. Alors que quand on est sur quelque chose de plus négatif, eh bien, on est plus sur quelque chose de proactif, à chercher des solutions, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger la solution. Et là, ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur l'aspect intellectuel, voire cérébral. Et donc, on va être, ça va plus nous occuper. Donc, si vous ne faites rien à côté, eh bien, penser à ce qui ne va pas va beaucoup, en tout cas, prendre de la place et vous occuper que de penser à des choses positives, qui vont être plus de l'ordre de l'émotion spontanée, instantanée, tout de suite, l'immédiateté. On est bien, on est heureux, on s'en rend compte ou pas, mais sur l'aspect négatif, c'est vrai que eh ben, ça prend plus de temps et forcément, on y pense plus. Et si en plus de cela, vous êtes fatigué, alors autant vous dire que là, c'est le combo parfait. Quand on est fatigué, le cerveau retient plus ce qui est négatif que positif. Donc c'est aussi un facteur, un moyen de savoir qu'on est fatigué ou pas. J'espère avoir déjà apporté quelques réponses à la question. Voilà, chère Marie, j'espère vraiment qu'avec ce que nous venons de nous dire toutes les deux, vous allez trouver le courage et l'opportunité de pouvoir enfin avancer et guérir, entre guillemets, alléger votre souffrance et mettre un peu de douceur et de sérénité dans ce qui vous est arrivé. Okay. Marie, vous êtes là?
Oui. Oui, je suis. J'ai juste l'impression d'être en apnée, que j'arrive pas à sortir ma tête sous l'eau. Et j'ai l'impression comme si les choses stagnent et que j'arrive pas à...
L'apnée, c'est l'urgence. Marie, l'apnée, c'est l'urgence. Donc, c'est vraiment maintenant. L'apnée, c'est l'urgence. C'est votre corps qui dit, bon, allez, il se passe quelque chose là. Vite, vite, vite. Marie, vous me rappelez, vous me direz?
Ok.
Je peux vous demander quelque chose, Marie?
Oui.
Vous n'attendez pas 2 ans pour me rappeler. D'accord?
Ok.
Hein? Donc, réécoutez ce podcast, réécoutez notre échange en podcast demain et sereinement, vous notez tout ce qu'il y a à faire et on se rappelle et on en parle.
D'accord.
D'accord. Okay. Moi, je suis tout cœur avec vous. Bon courage.
Merci.
Merci à vous, Marie. Au revoir. Merci. Et nous accueillons tout de suite Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Nicolas.
Oui, je suis là, je vous entends très très mal.
Ah, nous vous entendons divinement bien.
Ah, d'accord, bah, écoute, là ça va, on dirait que ça va un petit peu mieux, je vous remercie.
D'accord. Eh bien, bienvenue à la Libre Antenne.
Bah écoutez, ça fait 2 ans, mais je vous remercie beaucoup. Et puis, je remercie Europe 1 et tous les auditeurs. Écoutez, ça fait 2 ans que je vous écoute. Et puis, me concernant, c'est la goutte d'eau qui déborde un petit peu le vase, on va dire. Et je me suis lancé, j'ai dit, allez, je téléphone. Et puis, voilà, quoi. J'ai pas beaucoup de monde dans mon entourage. Et je me suis dit, il n'y a pas de honte à avoir. Et je suis ouvert à toute aide, à commencer par la vôtre. Et puis, éventuellement, je ne suis pas contre de recevoir des appels des auditeurs et des auditrices d'Europe 1. Pour être soutenu, parce que je passe un moment relativement difficile, et c'est pour ça que je me permets de vous appeler.
Nicolas, vous avez très bien fait de nous appeler, et je vais vous proposer de faire une première chose.
Oui.
Soufflez. Respirez. Tout va bien se passer.
D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous allez vite entendre à ma voix que je suis...
Je vous sens très, très stressé. On dirait moi quand je prends l'antenne.
D'accord. Je vais me lancer dans la radio.
Ah oui, non, mais c'était, voilà, il y a l'effet miroir. J'attendais le moment où vous alliez faire...
C'est compliqué pour moi. Je suis comme ça depuis tout petit et c'est compliqué.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Nicolas ?
Écoutez, je vous appelle pour 2 histoires différentes. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de traiter les deux choses ce soir ensemble. Mais je suis papa, je suis séparé de la maman depuis juin 2011. Et en fait, j'ai recueilli ma fille en octobre 2021. Mmh. Et si vous voulez, elle est venue en urgence chez moi parce que elle vivait de la maltraitance auprès de sa maman. Moi, j'ignorais tout. Je ne savais pas que c'était... j'ignorais tout. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et du coup, je l'ai recueilli chez moi à bras ouverts. Et petit à petit, j'ai appris des choses. Et je sais que ça a quand même été relativement loin dans les paroles et dans les gestes. Donc, envers ma fille. Et j'ai entrepris des démarches tout de suite. Elle était suivie à notre séparation auprès d'une psychologue.
Elle a 10 ans maintenant. Hein.
Elle a 13 ans. 13 ans, exactement. Et je l'ai emmenée tout de suite revoir la psychologue qui la suivait à l'époque lorsqu'on s'est séparés, sa maman et moi. Parce qu'on avait fait ça pour être sûr que tout se passait bien. C'était une démarche qu'on avait entreprise ensemble pour être sûr qu'elle ne souffrait pas de notre séparation.
Donc c'est votre fille qui a décidé, enfin en tout cas elle vous a demandé...
De venir vivre chez moi.
D'accord. Et comment est-ce que votre ex-épouse, ou en tout cas sa mère, a pris la nouvelle ?
Elle l'a eu très dur, elle a joué entre guillemets un petit peu à la maman qui ne comprenait pas ce qui se passait.
D'accord.
Le gros problème c'est que... Là, elle a eu la psychologue de ma fille récemment au téléphone. Et si vous voulez, elle réalise pas en fait la gravité de ses actes.
Elle est
dans le déni le plus total. Elle réalise pas du tout ce qu'elle a fait. Donc la psychologue m'a dit peut-être que cette femme a été éduquée. C'est peut-être l'éducation qu'elle a reçue. Donc du coup, elle voit pas le mal. Elle voit pas le mal et voilà quoi. Donc je me retrouve...
Nicolas, est-ce que vous acceptez que je vous pose quelques questions pour creuser un petit peu plus, pour essayer de comprendre ? Parce que là, ces 2 dernières semaines, c'était très intéressant. Nous avons eu des personnes qui nous ont appelées et qui ont témoigné du fait de violences au sein du foyer. Et c'était malheureusement très souvent des hommes qui maltraitaient leurs enfants. Et là, c'est atypique. Enfin, c'est tout le temps, ça arrive malheureusement. Mais là, votre histoire, nous avons la version plutôt violence faite par une femme. Comment est-ce que vous vivez, ou comment en tout cas vous avez vécu la situation lorsque votre fille vous a expliqué ce qui se passait avec sa mère ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Alors écoutez, auprès de vos auditeurs, je vais peut-être surprendre. Mais j'ai 42 ans, je mesure presque 2 mètres et j'ai je suis un homme quand même, je suis un homme quoi. J'ai entre guillemets le premier réflexe que j'ai ressenti en tout premier lieu, c'est elle reproduit ce que j'ai vécu. ça a été une personne qui m'a, ça a été une personne qui m'a frappé. Ah. Elle m'a frappé, elle s'emportait très vite. Elle m'a frappé. Donc en fait, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais mon Dieu, c'est pas vrai. Elle reproduit juste ce que j'ai vécu. Elle le reproduit sur ma fille en fait. Donc ça m'a à moitié surpris.
D'accord. Et c'était la raison pour laquelle vous vous êtes séparés?
Il y a eu un trop-plein. Il y a eu un trop-plein. C'est pour ça que je me suis séparée.
Et quand vous avez quitté cette femme, est-ce qu'il y a un moment, ne serait-ce qu'un éclair, comme ça vous vous êtes dit, elle ne le fera pas sur notre fille, ça n'est pas possible, ou éventuellement, elle pourrait agir de la même façon sur ma fille.
Est-ce qu'il y a eu un moment?
Ouais, vous y avez pensé quand même?
Non, j'ai jamais pensé à ça, bien au contraire. Bien au contraire, elle me disait toujours que son enfant, c'était sa priorité et que j'ai jamais pensé qu'elle puisse un jour lui faire du mal. Jamais.
Et Nicolas, est-ce que votre ex, vous avez raconté peut-être dans son enfance qu'elle-même avait été victime de violence ou pas du tout?
Dans mes souvenirs, pas du tout.
Non.
Je sais qu'elle a eu une éducation très stricte, très, très difficile quand même, mais des actes de violence, j'en ai vraiment pas le souvenir. J'ai pas le souvenir qu'elle m'ait raconté ça un jour.
Et quand elle s'en prenait à vous, est-ce que vous avez essayé quand même de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'elle était violente comme ça?
Le gros problème, c'est qu'elle pouvait s'emporter pour pas grand-chose, un regard de travers, question à laquelle je tente de répondre et que malheureusement pour moi je répondais à côté. Il y en avait assez pour recevoir un trousseau clé en pleine figure.
Ah oui.
J'ai servi de cendrier, hein. Elle se gênait pas pour écraser ses mégots sur ma main. Wow. J'en ai encore une cicatrice aujourd'hui. Voilà quoi, ça a vraiment été des gestes.
C'était l'enfer.
L'enfer, voilà.
Effectivement. Donc à la fois violence verbale, violence psychologique, violence physique. D'accord. Je poserai plein de questions après, parce que là, il va y avoir les informations de Wilfried de Villers. On se retrouve après?
Il n'y a pas de souci, à tout de suite.
Merci Nicolas, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à minuit. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc ensemble pour écouter les confidences. Et là, nous sommes avec Nicolas. Nicolas, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Avec vous.
Bon. Est-ce que ça va, Nicolas?
Un peu angoissé, mais ça va.
Ouais.
J'essaye de déstresser un petit peu.
D'accord. Bon. Nicolas, donc juste avant les informations, le flash info de Wilfried de Villers, vous étiez en train de nous confier l'enfer que vous avez vécu avec la mère de votre fille. Pendant combien de temps ça a duré?
J'étais avec elle pendant 11 ans, exactement.
11 ans à supporter.
Au début, on va dire que c'est comme dans beaucoup de couples, tout se passait bien.
Les choses
se sont installées progressivement et jusqu'à l'insupportable.
Oui. Donc, vous avez eu une fille en 2011, c'est ça?
Oui, tout à fait. 2009, pardon.
Pardon.
Février 2009.
Février 2009, ok.
Je me suis séparée en juin 2011.
Ah voilà. D'accord, je note. Donc, vous vous êtes séparés en 2011. Comment ça s'est passé pour vous? Il y a une reconstruction? Est-ce que vous êtes allé voir un psy par rapport à ce traumatisme? Est-ce que vous vous êtes occupé, pris en charge pour gérer ce qui vous était arrivé?
Alors, j'ai pris la décision, oui, en effet, d'aller voir une psychologue. Et donc, j'ai été suivi pendant un certain temps. Mais ça a été... voilà, j'ai pas, ça n'a pas été quelque chose pour moi de comment dire ça, de réparateur derrière, quoi. Il n'y a rien de concluant. Et j'ai vite, en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer, hein, je n'ai pas honte à vous le dire. J'ai trouvé le courage de partir grâce à quelqu'un. On travaillait, donc la maman de ma fille et ainsi que moi-même, on travaillait sur le même lieu de travail. Et j'ai eu le courage de partir grâce à quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui a été très adorable avec moi. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le courage de partir parce que moi, je ne voulais pas partir pour l'amour de ma fille. Et en plus de ma fille, j'avais mon chien que j'adorais plus que tout, et je voulais pas les laisser tout seul, en fait. C'était vraiment dans ma tête, c'était clair. Je voulais pas partir, je voulais rester pour eux. Et en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que ben ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et il y arrivait un moment, ben j'ai dit, ben allez, il y a cette fille qui s'est présentée à moi. Bon, on n'a pas eu une très longue histoire, mais voilà, ça a été une très jolie histoire quand même. Et j'ai trouvé le courage de partir grâce à elle, parce que j'y arrivais pas à partir.
Votre fille, vous l'avez récupérée donc en 2021. Au niveau de la...
Octobre 2021, oui, tout à fait, c'est bien ça.
Et est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, avant que votre fille ne vous dise quoi que ce soit? Est-ce que vous aviez quand même repéré un changement
Alors, quand elle venait chez moi, non, aucun. Par contre, quand je l'ai... les trois... quatre, voire, allez, on va dire cinq, dernières fois que je l'ai raccompagnée chez sa maman. Donc, on faisait un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mm-hmm. Et quand je la raccompagnais chez sa maman, je voyais un changement de comportement. Elle avait tendance à pleurer. Comme ça donnait la petite fille qui n'avait pas envie de rentrer chez elle, quoi, qui n'était pas bien. Et donc, là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, ben, après, avec le temps, ben, j'ai vite compris ce qui se passait, quoi. J'ai vite compris ce qui se passait.
Nicolas, ce qui est incroyable, c'est que personne de l'entourage, c'est-à-dire les grands-parents, personne n'a réagi.
Alors, de mon côté, j'ai la chance d'avoir des parents en or qui s'en occupent très très bien.
Ouais.
Mais ces grands-parents maternels, ben, c'est une catastrophe. Je vais pas affirmer parce que ça ne se fait pas. Je pense qu'ils ont vu un peu ce qui se passait et ils se sont voilés les yeux, ni plus ni moins. Hein. Je pense que, avec tout ce que j'ai pu savoir ces derniers temps, je crois qu'ils se sont voilés, entre guillemets, la face. Et voilà, quoi. Ils n'ont pas réagi.
Alors, ils n'ont pas réagi à l'époque, mais maintenant que ça y est, votre fille a verbalisé tout ça, qu'elle s'est exprimée, que, j'ai envie de dire, la vérité a explosé. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux ou pas du tout?
Alors moi, concernant, j'ai plus contact avec eux depuis peu. En sachant ce que j'ai, tout ce que j'ai appris, j'ai pris la décision, grâce à la psychologue qui suit ma fille actuellement, de couper tout contact avec sa maman, parce que moi, en sachant tout ça, c'est plus possible. Je peux plus converser avec elle, c'est beaucoup trop dur pour moi. Et concernant ma fille, elle ne veut plus entendre parler de sa maman et de ses grands-parents, quoi. C'est arrivé à un stade où elle veut plus en entendre parler, quoi. Elle me dit papa, elle dit c'est triste à dire, mais c'est comme s'ils étaient morts pour moi. C'est dur d'entendre sa fille parler comme ça. Mais surtout à l'âge de 13 ans, quoi. Elle a rien demandé. Elle a vécu des choses, voilà, difficiles, et de l'entendre parler comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué.
Qu'est-ce qu'elle fait alors maintenant, votre fille? Elle a été rescolarisée près de chez vous? Comment
Alors, elle est toujours dans le même collège.
Oui.
au collège où ça se passe très bien. Elle a des excellentes amies avec qui je suis en contact parce que voilà, je leur ai dit, j'ai dit si ça va pas avec avec Lisa, n'hésitez pas à me le dire et je suis en contact avec ses petites amies qui prennent bien soin d'elle et je les en remercie d'ailleurs parce que heureusement qu'elles sont là. Ouais. Et voilà quoi, elle est juste dans un collège voilà qui est pas très loin de chez moi et elle passe en quatrième. Au niveau de sa scolarité, tout se passe bien. Elle, c'est au contraire pour elle, c'est quelque chose qui lui fait du bien, voilà, d'être avec ses copines, apprendre et c'est ce qui l'aide à l'avancer, je pense.
Oui, certainement. En tout cas, c'est bien. Elle reste au moins dans un milieu et un cadre qu'elle connaît et qui l'apaise et qui lui fait du bien. Donc ça, c'est
tout à fait. C'est ce qui me faisait le plus peur. C'est ce qui me faisait le plus peur, le décrochage scolaire. Elle a 13 ans, elle va sur ses 14 ans. C'est ce qui me faisait le peur. J'avais peur qu'elle dévie dans beaucoup de choses. Et heureusement, je n'ai pas une petite puce qui est comme ça. Et voilà, quoi, elle se raccroche à l'école. Et ça, c'est ma plus grande fierté en tant que papa, quoi.
Nicolas, quelle autorité êtes-vous allé voir pour marquer le fait que c'est fini, la mère n'aura plus de droit de visite ou droit de garde sur votre fille. Je vous pose la question parce que pour les auditeurs qui suivent la Libre Antenne, hier notamment, nous avions eu deux témoignages sur des placements abusifs. Quelle autorité êtes-vous allé voir ? Qui vous a aidé ?
Alors écoutez, dans un premier temps, comme je vous disais, je me suis rapproché de sa psychologue qui la suivait quand elle était petite au moment de la séparation entre sa maman et moi.
D'accord.
Cette psychologue travaillait pour la PMI. Donc, ce qu'on nous, on appelle ici dans le Nord, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans les autres régions, c'est l'UTPAS. On s'est rapproché, je me suis rapproché d'elle parce que je me suis dit, elle connaît Lisa, elle l'a suivie quand elle était petite. Donc, je vais la contacter parce qu'elle s'était mise à son propre compte dans une autre ville. Donc, je l'ai contactée et en fait, cette psychologue, en apprenant tout ce qu'elle a appris, Elle a contacté ses anciens collègues de la protection de l'enfance, parce qu'il faut savoir que Lisa, elle a quand même encore une demi-sœur, donc qui est toujours qui est chez sa maman.
D'accord.
Donc la psychologue a contacté la protection de l'enfance pour pour être sûr que dorénavant que tout se passait bien. Et moi de mon côté, je suis en pleine démarche au niveau du jugement pour refaire complètement le jugement. Et pour avoir ma fille chez moi tout le temps, quoi.
D'accord. Bon. Donc, en tout cas, pour vous, ça a marché. Vous avez écouté les témoignages hier ?
Oui, tout à fait. Ouais. J'avais entendu parler. J'avais entendu parler de l'ASE. Donc, tout de suite, je me suis. J'ai penché très fort l'oreille et voilà, quoi.
Elles n'ont pas eu la même chance que vous, malheureusement.
Oui, et c'est des choses qui ne devraient pas, en 2022, c'est des choses qui ne devraient pas exister, surtout quand on touche à des enfants.
Mais
c'est le dernier tout. C'est le dernier tout.
Absolument. Donc, vous nous appelez, vous souhaitiez donc nous parler de ce qui vous arrive. En tout cas, pour vous, j'ai envie de dire, l'issue pour le moment est plutôt positive, puisque votre fille, elle est avec vous, elle va bien.
Donc, oui, tout à fait.
Donc, par rapport aux parents qui n'ont pas cette chance-là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire s'il y avait un message à leur transmettre ?
Ce que je pourrais leur dire, c'est en fait aller jusqu'au bout de leur démarche. S'ils ont entrepris des démarches, d'y aller jusqu'au bout et de toujours y croire. Parce qu'il arrive un moment, ça paye toujours. Ça peut pas être le mal qui prend le dessus sur sur le bon. C'est pas possible. Donc il faut aller jusqu'au bout et puis ils ont tout mon soutien, vraiment.
Merci Nicolas, vous vouliez également nous parler d'un autre sujet.
Oui, tout à fait. Alors sujet qui n'a strictement rien à voir, c'est que depuis, ça me fait penser à un auditeur que vous avez reçu il y a pas tellement longtemps, qui vous avait appelé pour le même sujet. Depuis la séparation avec sa maman, donc depuis 2011, j'ai rencontré des personnes Et dans ma vie à 42 ans, je me pose de sérieuses questions parce que j'ai dans ma vie sentimentale, il n'y a rien qui fonctionne en fait.
Ah,
y a rien
vous
qui
n'avez
fonctionne.
Rencontré personne, d'accord, je n'avais pas compris.
Si, en fait, j'ai rencontré des personnes, mais c'est une catastrophe. C'est, je rencontre, on va dire, je me tourne toujours vers des personnes qui sont une catastrophe, quoi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais...
Hormis par le mot catastrophe.
Voilà, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous appelez une catastrophe ?
Alors, j'ai tendance à... Là aussi, ça va vous rappeler des souvenirs par rapport à un auditeur ou une auditrice. J'ai toujours tendance, sans le faire exprès, bien sûr, parce qu'il n'est pas écrit sur le nom des gens qu'on rencontre, j'ai toujours tendance à me tourner. À chaque fois, ces gens-là viennent vers moi, à me tourner vers des personnes qui ont des problèmes, en fait. J'ai un cœur énorme. Mmh. Je suis toujours prêt à rendre service, à les écouter et à les accueillir les bras grands ouverts. Et je finis par en tomber amoureux. Et en fait, je joue un petit peu le rôle du psychologue. Et je me rends compte que moi, en retour, j'ai absolument rien. J'obtiens rien. Et
compliqué. C'est catastrophe, comme vous dites, que vous rencontrez. Le premier contact, il est vraiment dans un contexte de séduction ou du type site de rencontre, ou comment est-ce que vous les rencontrez ?
Alors, là, je les ai toujours rencontrés de manière, toujours comme si j'avais rencontré 100 femmes. Je ne veux pas exagérer, j'en ai rencontré 3. Ça s'est toujours produit de manière naturelle. Sauf la toute dernière en date où je me suis lancé sur un site de rencontre bien connu d'un réseau social, je citerai pas de nom. Mm-hmm. Et je me suis dit bon allez, je vais tenter. Pourquoi pas, je vais tenter. Et je suis tombé sur une fille que je connaissais très bien, qui m'a reconnu et qui m'a liké, qui est tout simplement ma boulangère au coin de ma rue. Donc oui, c'est plutôt original. Et on a commencé à discuter et tout se passait très très bien. Et elle était vraiment indécise parce que elle me disait: Nicolas, je me refuse d'être heureuse parce que je viens de perdre mon papa, je viens de perdre ma maman il y a récemment. Donc c'est compliqué pour moi, je me vois pas me mettre avec quelqu'un et le faire souffrir, j'en ai vraiment pas envie. C'était son excuse principale. Et quand j'ai essayé de creuser un petit peu la semaine dernière, pour vous dire, on a été à la piscine avec ma fille et ses enfants. On a passé un magnifique moment. Franchement, je me suis dit, si ça continue comme ça, l'histoire, c'est dans la poche, quoi. Je vais réussir à la séduire. Et en fait, il n'y en est rien parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un texto comme quoi, tout simplement, je ne devais pas me faire de fausses idées et que, qu'elle connaissait quelqu'un et que ça ne date pas de... Et que ça date pas d'hier et que je devais surtout pas me mettre des choses en tête parce que il se passera absolument rien entre nous. Donc quand j'ai reçu ce texto, je vous prie de croire que ça m'a fait plutôt drôle parce que je m'y étais vraiment très fort attaché et parce que ça fait quand même plus d'un mois que je converse avec elle et j'ai fait preuve d'une empathie mais pas comme c'est pas possible quoi. Je l'ai écouté mais au maximum et quand je vois le résultat je suis déçu mais je me dis du haut de mes 42 ans j'ai même honte mais je me dis comment on peut être comme ça quoi, comment on peut être comme ça à 42 ans, j'ai honte de moi.
Nicolas, pourquoi vous auto-flagellez si vous êtes comme ça? Expliquez-moi pourquoi vous vous auto-flagellez.
C'est ce que ma psychologue m'avait dit à l'époque, mais c'est ce que je lui ai dit à cette fille. J'ai dit, écoute, je te préviens, je suis un grand sensible, Et voilà, je préfère être honnête avec toi, je préfère te dire.
Elle a été.
J'ai toujours été comme ça.
Ceci étant, Nicolas, elle a été honnête avec vous aussi.
Puisque, tout à fait. Voilà. C'est une chose que je lui reprocherai jamais.
Voilà. Finalement, elle vous a quand même envoyé un SMS en vous disant qu'elle préférait, mettre un terme sur une éventuelle projection amoureuse. Mais toujours est-il que, bon, au moins, maintenant, vous savez ce qu'il en est.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si vous continuerez à aller acheter votre baguette tranquillement, mais toujours est-il que là, au moins, c'est clair. Comment est-ce que vous imaginez la personne qui partagerait votre vie? Comment vous l'imaginez, Nicolas? Pour toutes les auditrices, d'ailleurs, qui nous écoutent.
C'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce que je vais être honnête avec vous, je suis arrivé à un point où je me dis, mais cette fille, je lui ai confié en un mois mes plus lourds secrets. Et mais je me dis, comment faire confiance en quelqu'un? J'ai connu ça tout le temps. Après la maman de ma fille, j'ai connu que ça. J'ai reconnu une fille aussi qui était adorable et malheureusement pour elle, elle était bipolaire. C'était insupportable à vivre. C'était j'ai préféré tout arrêter.
Alors vous avez reçu un SMS de Marlène, qui est un bon conseil, je trouve. Alors elle vous dit, je pense qu'il faut qu'il pense à lui et se soigner son stress. Être bien dans sa peau avant tout, début d'une relation. Être bien dans sa peau avant tout, début d'une relation. Être bien dans sa peau. Bon, avant tout début. Ah, c'est être bien dans sa peau avant tout début d'une relation. Voilà. La relation amoureuse doit être un plus dans notre vie et pas une béquille. Donc je répète, je pense qu'il faut qu'il pense à lui et se soigner son stress, être bien dans sa peau avant tout début d'une relation. La relation amoureuse doit être un plus dans notre vie et pas une béquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Bastien qui dit que c'est très beau.
Je pense que c'est très beau et que c'est entièrement vrai, hein, ce message. C'est entièrement vrai. Après, je ne me suis jamais tourné auprès d'une femme pour penser en mon passé. Ça m'est arrivé une fois, mais après j'ai vite compris que c'était une grave erreur et que c'était pas une chose à faire. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais voilà quoi.
En clair, Nicolas, rencontrer quelqu'un, ça ne doit pas être un besoin, mais une envie. Et puis effectivement, dans un premier temps, c'est se recentrer. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de reconstruction. D'être bien avec soi-même. Quand on est bien avec soi-même, et ben ça se voit. Alors on ne tombe pas amoureux, mais on devient amoureux. Et on devient amoureux de Nicolas. Nicolas qui lui-même se sent bien. Donc forcément, là, il y a peut-être un peu de travail à faire sur vous, pour vous, de façon à pouvoir aller ensuite vers les autres. Je le dis très souvent aux auditeurs qui recherchent l'âme sœur et qui nous le confient, c'est devenez avant tout et d'abord l'homme de vos rêves pour rencontrer la femme de vos rêves.
Ce qu'on entend, je pense que vous allez me le confirmer, mais ce qu'on entend régulièrement, le négatif attire le négatif, le positif, le positif.
Ben voilà, malheureusement un peu la loi des séries, quoi. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Donc, si vous vous sentez bien, vous arriverez beaucoup plus facilement à transmettre des choses positives. Et puis, ce besoin de super-héros, cette cape que vous avez à sortir tout le temps quand vous rencontrez quelqu'un, oui, à condition de ne rien attendre en retour. Alors que vous, c'est intéressant parce que vous nous dites, oui, je le fais parce que derrière, j'espère que ça fournit quelque chose, quoi, qui est du résultat, une obligation de résultat quand je mets ma cape de super-héros avec une femme. Bon.
Ben oui, le problème, c'est que je m'aperçois que je donne énormément de ma personne et que moi, on ne me pose même pas de questions sur mon passé ou voilà quoi. C'est dans ce sens-là que je vous faisais la remarque.
Eh bien, ça y est, vous avez déjà une première piste. Vous voyez, vous venez de l'exprimer. vous venez d'exprimer le fait que, lorsque vous rencontrez quelqu'un, la personne ne s'intéresse pas à vous. Eh bien, maintenant que vous l'avez verbalisé, Nicolas, la prochaine fois que vous rencontrez une personne, faites bien attention à ce détail. Est-ce qu'elle s'intéresse à moi ? Est-ce qu'elle pose des questions me concernant, à savoir ma couleur favorite, mon plat préféré, ce que j'aime dans la vie, ce qui me ressource, ma fille, mon métier, vous. Voyez, vous avez déjà un premier élément.
D'accord.
Ah, je vois que ça résonne. Ça fait écho.
Ben oui, je suis quelqu'un qui est qui est à l'écoute et qui prend tous les conseils puis même auprès de vos auditeurs, vos auditrices. Si jamais quelqu'un cherche à rentrer en contact avec moi et me conseiller, c'est ce que je disais tout à l'heure au standard. Je prends tout quoi, je prends tout. C'est tellement important quand on n'a pas j'ai pas beaucoup grand monde dans mon entourage et à qui me confier. Et c'est pour ça que j'ai entrepris cette démarche ce soir. Je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, je vais peut-être avoir des contacts qui vont me remonter le moral et je vais avoir vraiment des bons conseils. Et puis, c'est le but recherché, en fait. C'est d'aller mieux et de surmonter toutes ces épreuves.
Alors, comment vous vous sentez, là, le fait d'avoir libéré la parole ?
Ah, ça fait énormément de bien.
Ça fait du bien.
Et je suis vraiment très, très satisfait de vous avoir téléphoné.
Alors, vous avez reçu un SMS d'Anne qui vous dit « Surtout, n'ayez pas honte, Nicolas. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes sans doute trop sensible. »
Aussi.
On va dire très sensible, trop sensible peut-être. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, il y a limite hypersensible, j'avoue.
Bon, maintenant, rassurez-vous, c'est aussi une qualité. Je vous rassure.
Je sais,
mais, oui,
mais certaines,
évidemment.
Certaines en profitent, malheureusement. Certaines en profitent.
Donc, Nicolas, nous avons entendu votre appel. Vous aimeriez donc rencontrer quelqu'un, mais au-delà, avant de rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux, c'est également sur le plan amical, quelqu'un qui va s'intéresser à vous.
Tout à fait.
Et nous faisons d'ailleurs un clin d'œil à Hamid, qui cherche également quelqu'un, qui nous appelle quasi tous les soirs au standard d'Europe 1 pour nous dire qu'il recherche l'âme sœur. Donc, on pense à lui également ce soir. Donc, Nicolas, nous vous avons entendu. Un homme sensible qui se bat pour sa fille, qui essaye également de se reconstruire. Vous avez en tout cas tout mon soutien et j'espère que ça fera écho et que vous rencontrerez des amis dans un premier temps et puis ensuite, qui sait, peut-être l'âme sœur.
Écoutez, c'est vraiment très gentil de votre part, je vous remercie de tout mon cœur et je suis vraiment heureux d'être passé sur votre antenne en tout cas. Ça restera un très bon souvenir.
Rappelez-nous surtout pour nous donner de vos nouvelles. Vous savez, on s'attache à nos auditeurs.
Entendu.
D'accord ?
Entendu, j'y manquerai pas. C'est vraiment très gentil de votre part.
C'est normal. À bientôt, Nicolas.
Merci à toute l'équipe d'Europe 1, à bientôt.
À bientôt. Et nous accueillons tout de suite Catherine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Très bien.
Ah bon, parce que j'avais mon haut-parleur, sinon bon, c'est très bien, alors je suis contente.
Alors voilà, idéalement, Catherine, si vous pouvez... parce que ça résonne
un
peu.
Quand j'ai eu votre assistant, j'ai enlevé et je n'ai plus rien entendu quand j'ai enlevé.
Bah là, en tout cas, ça fait un peu écho. On sent que vous êtes loin. Voilà, c'est ça que...
Alors, attendez, je vais l'enlever pour voir. Et là, est-ce que vous m'entendez ?
Ah oui.
Mais moi, je ne vous entends plus du tout.
Ah, bon.
Je vous entends vraiment très mal. Donc, est-ce que vous m'entendez, là ?
Super. Encore mieux.
Bon, mais moi, je vous entends bien aussi.
Ah,
j'ai enlevé... Ça y est, maintenant, ça y est, la technique est arrangée.
Formidable. Bienvenue Catherine, bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, bonsoir, je suis contente d'être là.
Ben, moi aussi, je suis ravie de vous entendre. Qu'est-ce qui vous arrive Catherine ?
Oh ben c'est simple et fort. C'est-à-dire c'est tout simplement évoquer la solitude.
D'accord.
Et je pense que c'est partagé par beaucoup de monde, mais je voulais parler surtout de la solitude d'amour et la solitude d'affinité.
La solitude d'affinité. C'est-à-dire ?
Oui, c'est-à-dire le manque, quoi, tout simplement. Le manque de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un. Et donc, parfois, les gens ont envie de... Vous voyez, ils ne supportent pas la vie dans le quotidien, ont besoin de se coller à quelqu'un. Moi, ce n'est pas ça. Ça, je sais faire. Mais en revanche, je crois encore à l'amour. Et donc, j'ai 70 ans et 3 points de suspension. Et j'avoue que... Et en plus, j'aime les femmes. Et en plus, donc, avec le temps... Et je trouve que ça fait beaucoup de choses qui, finalement, entravent, pour justement rencontrer quelqu'un et pour partager. Moi, je trouve que ça a du sens. Enfin, pour moi, l'amour, c'est ressentir les choses et puis estimer et admirer. C'est comme ça que je le ressens.
C'est effectivement très joliment dit, en tout cas. Et ça fait sens, en tout cas, à votre vie. Alors, est-ce que vous pouvez dire que vous en avez besoin ? Ou que là, vous en ressentez plutôt l'envie ?
L'envie.
Oui.
Les deux, j'allais dire. Mais c'est une envie.
Mais
oui, c'est une envie.
Ouais. Oui, parce qu'il n'est pas là, donc c'est un besoin. Mais sinon, quand c'est là...
C'est une envie. Ouais. Vraiment, c'est une envie. Parce que je crois en plus qu'on peut aimer jusqu'à la fin de sa vie. Mais
Bien sûr.
Que je crois en la vie. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de blasé. Mmh. Ce que j'aimais quand j'étais adolescente, je l'aime toujours. J'ai les mêmes goûts. Donc, ce qui me fait vibrer, c'est, je sais pas, c'est à la fois la simplicité de la vie, le naturel avec quelqu'un.
Oui.
Et puis, j'aime la littérature, le cinéma. Ce que j'aime, c'est le fait de lire un livre, d'aller au cinéma. Et je trouve que dans la vie, dans les familles et à l'école, on parle pas assez du plaisir, parce qu'il faut du plaisir pour apprendre. Et
oui,
puis, il faut du plaisir,
absolument,
et des envies, effectivement, pour rencontrer quelqu'un. Moi, je ne cherche pas une infirmière ou le truc, comment on appelle ça, pansement. Enfin, je trouve que, pour moi, ce qui... Enfin,
la béquille, la fameuse béquille dont parlait tout à l'heure Marlène par SMS.
Ben, je ne sais pas, parce que figurez-vous que je n'ai pas écouté l'émission parce que j'avais envie de me concentrer. Et
je comprends.
Alors, j'ai eu peur d'être, je ne sais pas influencée, mais d'être perturbée.
Catherine, à quoi ressemble la femme de vos rêves, puisque vous nous dites que depuis que vous êtes adolescente, vous avez toujours eu les mêmes goûts. Alors, à quoi ressemble-t-elle?
Je voulais dire les mêmes goûts dans la vie, les mêmes centres d'intérêt.
D'accord.
Mais en même temps,
étant,
je vais vous dire,
le portrait.
Oui, mais moi, je suis une amoureuse des personnalités. Et c'est pour ça que j'aime quelqu'un qui a une forte personnalité, qui m'en impose finalement, et avec qui... Il peut y avoir un équilibre des échanges, parce que j'ai une personnalité aussi, et j'aime une allure aussi. Pour moi, une femme, c'est une personnalité.
Une présence.
Une allure, oui, une présence, une allure.
Un charisme.
Voilà, un charisme, et puis, moi, je ne sais pas, comment dire.
Donc, plutôt quelqu'un de solaire, en fait.
Mais écoutez, solaire, enfin, d'optimiste, et parce qu'il me semble que, pour moi, il me semble que échanger, transmettre, c'est vraiment un accomplissement.
Mmh.
Et je trouve que l'amour ou l'art, c'est l'antidote à la mort. Et ça apaise, bien sûr, ça apaise. Mais en plus, j'aime la sensibilité. Et je trouve que quand j'aime quelqu'un, ça fait naître mes idées et ça fait vibrer mes sensations.
Bien sûr.
C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vis.
Elle date de quand, votre dernière histoire d'amour ?
Bien, disons que j'ai vécu 15 ans avec une amie, puis ça s'est effiloché, c'était même plus une camaraderie. Mais il y a 4 ans, 4-5 ans, j'ai rencontré une femme, mais elle était beaucoup plus jeune que moi. Mais on avait quand même des affinités.
Oui.
C'est quelqu'un de très beaucoup. On avait une très grande différence. Et quand je me suis dit que c'était pas possible, mais voyez, je suis comment dire à l'aise avec toutes les générations et particulièrement avec les gens. Et c'est pas une recherche, ça se fait souvent comme ça. Parce que il y a j'aime ce qui émane de quelqu'un, c'est-à-dire une énergie érose, quoi. C'est pas Thanatos. C'est je sais pas. Ça me fait vibrer. Et souvent, les gens de ma génération disent « Ah, je fais plus jeune que mon âge ». Mais moi, je ne me le dis pas, je suis simplement bien dans mon âge et les gens me le disent. Mais ce qui est important, je crois, c'est de justement, c'est croire en quelque chose.
Bien sûr.
Et ce qui me frappe, moi, c'est des gens comme Picasso ou autres, enfin des artistes, je trouve qu'ils ont une énergie et ils font plus jeune que les autres quand on voit leurs camarades de classe ou leurs amis d'antan. Eh bien, je trouve que d'être un artiste, ou notre vie, c'est un peu une œuvre d'art, mais souvent elle est ratée. Non, mais je veux dire, ça crée du sens et ça donne de l'énergie et la flamme, elle existe toujours.
Et c'est ça que vous recherchez ? Vous recherchez la flamme ?
Ah oui, parce que j'ai une partie de la flamme, mais je n'ai pas l'autre partie. Non, mais c'est vraiment... Et justement, je pense que rencontrer quelqu'un, c'est un voyage. Et figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une phrase, mais qui exprime ça, je trouve. Enfin, on cède à l'amour juste parce qu'il nous donne l'idée de l'inconnaissable. C'est beau.
C'est très joli, effectivement.
Et ça correspond vraiment à ce que je ressens.
Et alors, je ne sais pas d'où vient cette idée que vous ne pourriez plus aimer.
Ah non, je pense pas que je ne pourrais plus aimer.
Ah.
Non, j'en ai le goût de l'amour, je ne pense pas. Non, justement, je pense qu'on peut aimer jusqu'à la fin de sa vie. Mais en revanche, je vous dis, quand on est resté comme ça un certain temps, c'est comme si, comment dire, vivre et aimer, c'est quelque chose qui revit, qui ressort, qui s'exprime, alors que c'est un peu, c'est plus une flamme, c'est parfois des cendres à l'intérieur. Et il y a une phrase qui est vraiment belle, mais quelle flamme encore empêche d'accepter la cendre. Franchement, elle est belle cette phrase aussi.
C'est vrai que c'est très joli, très très joli. Qui vous inspire comme ça?
Pardon ?
Elles viennent de qui, ces phrases, ces citations ?
Alors, je ne sais pas. La première, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Et l'autre, il y a très longtemps, il y a peut-être 50 ans, j'en sais rien, 40. C'était à la mort d'un poète et quelqu'un qui animait aussi des émissions de radio. Et à la fin de l'article, il y avait ce vers, voilà. Et je trouve que ça illustre bien, finalement... un itinéraire et justement cette flamme qui existe et qui est une antidote à la mort et qui est, je trouve que ça donne du sens quoi, de transmettre, d'aimer, de partager. Franchement,
de partager,
crois,
oui, absolument. C'est
moi,
vrai
je
ne
pourrais
c'est...
pas vivre sans partager. J'ai plein de choses à donner. Je trouve ça dommage que personne... Non, mais c'est vrai, je plaisante, mais c'est vrai que j'ai plein de choses à donner et je me dis que ce n'est pas possible parce que c'est vrai que je vous dis, j'aime les matinées, j'aime les matins, le jour qui se lève. Mais le soir, j'ai toujours une larme qui tombe dans mon cœur.
Oh. Ouais, c'est... Bon, on fait quoi ? On fait un appel ? On fait un appel à une auditrice, aux auditrices qui seraient également, comme vous, sensibles ?
Mais oui, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui doivent être comme ça. Et puis, je suis vraiment sincère. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui trafique sa personnalité. C'est moi ça. Puis en même temps,
authentique.
Vous savez, ce qui manque le plus quand on est seul,
dites-nous.
De rire avec quelqu'un. Moi, je trouve que dans l'amour, rire, être complice et en même temps échanger, pour moi, c'est ça.
C'est vraiment.
On ne peut pas se chatouiller et rire tout seul, non, ça c'est impossible.
Ça marche moins bien.
Je trouve que le rire, c'est la vie. Et puis, le sourire, c'est l'émotion, c'est la séduction, le sourire. Un sourire, c'est très sensible.
Ça reprend ce que vous nous disiez au tout début de notre échange, c'est-à-dire cette notion de plaisir, en fait.
Oui.
Mais c'est ça.
Oui, c'est ça.
Finalement, on partage, ça nous procure du plaisir. On rigole, voilà, c'est plaisant, c'est du bonheur, c'est de la joie à partager. On échange, on transmet. On vit le quotidien à deux. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais les bas permettent aussi de se rendre compte que les hauts sont des instants qui ne sont pas volés. Au contraire, il faut les prendre et les savourer. Donc, je comprends parfaitement.
J'ai l'impression qu'en vieillissant, avec les années, dans la maturité, on accepte plus d'être imparfait et que les autres le soient. Parce que moi, j'étais très idéaliste. Et quand on est idéaliste, en fait, on aime plus l'idée de l'amour que la personne.
comprends, je comprends. Alors, en tout cas, ça pour vous, vous en êtes là aujourd'hui.
Oui, d'accepter quelqu'un d'imparfait.
Oui.
D'être dans la réalité, en fait. D'être dans une réalité, mais avec bienveillance, lucidité et beaucoup de sensibilité.
Je comprends, je comprends. Est-ce que vous êtes inscrite à des associations, Catherine?
Non, puisque... pas du tout. Non. C'est ce que je disais à votre... Vous savez, moi, je suis une empathique sauvage un peu. C'est-à-dire que parfois, il y avait des associations, mais j'ai l'impression qu'il y a toute une stratégie, un peu des cheftaines, etc. Et ça, je ne peux pas. Mais en revanche, j'aime aller vers les gens et je donne d'une façon comme ça, mais sans appartenir à une association. Et en plus, vous voyez, c'est ce que je me dis, partager c'est bien, mais c'est pas parce que quelqu'un va aimer les mêmes livres que moi, va aimer les mêmes films, qu'en fait, cette personne, elle va me plaire. Je verrai les choses plutôt dans le sens inverse. C'est parce que quelqu'un me plaît que finalement, il y a un cheminement qui fait qu'on va partager des choses.
Bien sûr.
Je le vois... Enfin, moi, je le ressens plutôt de ces manières-là, parce que j'ai un côté, je ne sais pas comment... Ben oui, j'aime la littérature, j'aime le cinéma, mais en même temps, je peux aimer une chanson de Benjamin Biolay, de Juliette Armanet, et puis Ferlandouille, quoi. Vraiment, j'aime ça aussi. Mais ça, c'est... Vous voyez, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui répondent à des annonces dans des magazines, mais... Ou alors des gens, les réseaux sociaux, mais c'est ce que je disais à votre assistante, j'ai l'impression que les gens font leur liste de qualité, comme on fait une liste de commissions, tout ça pour se vendre sur un marché. Franchement, j'ai besoin d'être en direct avec quelqu'un, j'ai besoin d'un physique, d'une allure, d'un sourire surtout. Je suis très sensible au visage.
Ça me rappelle vraiment cette phrase de Michel Morgan qui disait « Le bonheur existe et il est dans l'amour ». Vous voyez, c'est vous, je trouve.
Ah oui, parce que on a beau être heureux dans une journée, avoir des connaissances, pas forcément des amis, mais je dis toujours, l'amour, c'est d'une autre nature. Et c'est un mystère. Et c'est vrai que, enfin, franchement, je le pense vraiment, c'est comme ça que je ressens les choses, que je les vis, mais c'est pour ça que je trouve ça dommage que je sois seule. Ouais. J'avoue que ce soir, pour moi, c'est comme une bouteille à la mer.
Eh bien, cette bouteille à la mer, je suis certaine qu'on l'a entendue. Et vraiment, moi, je vous souhaite de rencontrer une belle âme comme la vôtre, Catherine. Quelqu'un qui saura partager avec vous tout ce que vous nous avez dit. Autant de bons moments, de sensibilité et de poésie, parce que c'est comme ça que je vous ressens. Je vous souhaite...
Un alter ego, finalement.
Oui, peut-être.
Non, mais encore, c'est pas, je veux pas un double. Hein. J'ai des gènes jumelles, ça me suffit.
Bon.
Non, mais je plaisante pas. Mais franchement, c'était important pour moi. Hier soir, tout d'un coup, je me suis réveillée, mais c'était trop tard, et donc j'ai appelé. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester sans agir, sans faire un premier pas. Ouais,
vous avez très bien fait. Très, très bien fait. Vous nous tenez au courant? Nous, également, de notre côté, si on a des contacts qui se manifestent, on vous met en relation avec eux. Ou du moins, avec elles.
Oui.
À bientôt, Catherine.
Merci.
Merci à vous. Et nous accueillons tout de suite Annie. Bonsoir, Annie.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci beaucoup. Alors, je vous ai écrit, je vais être assez concise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Malheureusement.
Malheureusement, le temps passe trop vite.
Oui.
En fait, donc, je vous ai écrit un petit mail tout à l'heure.
Alors Annie, je vais vous rassurer, si jamais on est coupé, je vous reprendrai demain en début d'émission.
C'est gentil.
Hein, d'accord.
C'est gentil, vous êtes adorable, merci beaucoup. Donc, comme je vous écrivais, au sein de mon travail, j'ai rencontré un monsieur il y a 4 ans à peu près.
Oui.
On a juste dormi ensemble, etc. Et on ne s'est jamais perdu de vue. Il m'aime beaucoup, etc. Et là, il me dit, il faudrait qu'on parle de toi et moi et de notre avenir parce que moi, j'aimerais bien vivre avec toi, une belle histoire, etc. Il est beaucoup plus jeune que moi, il a 42 ans
oui.
et j'en ai 59.
Mmh.
Donc, il me dit, bah, très bien, moi, je viens te voir ce soir, on discute, etc. Il est venu dimanche un petit peu ivre, chose que je ne savais pas du tout, très tard le soir. Donc, je lui dis, bon, d'abord, c'est douche et après, bah, écoute, tu dors. Et en fait, en guise de dormir, il s'est mis à me faire des câlins, etc.
Oui.
Des câlins un petit peu plus appuyés, mmh. son sexe contre le mien, etc. Et moi, je lui dis, mais moi, je ne peux pas parce que j'ai pas de test, enfin, j'ai pas tes tests à toi. Et en fait, je crois que je suis hypochondriaque. Et depuis ce dimanche, il ne m'écrit plus. Si hier, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis au boulot, je te rappelle, j'ai pas de nouvelles. Il ne m'écrit plus, il ne répond plus. Et moi, je suis complètement stressée par le VIH, par tout ce qui peut arriver, en fait.
Alors, j'essaye de... Parce que là, il y a pas mal de messages... Oh là, vous m'entendez?
Oui. Ouais. Oui, je vous entends, ça.
Il y a pas mal de messages là, que vous essayez de nous transmettre. On va commencer par lequel?
Le fait que je suis devenue hypochondriaque, je crois.
Depuis dimanche?
Non, pas depuis dimanche, mais d'accord. j'ai eu des anévrismes au cerveau l'année dernière. J'ai subi 2 opérations et j'en ai peut-être une à subir encore. Et maintenant, dès que j'ai un petit souci, ça grossit, quoi. Ça grossit chez moi. Et là, le fait qu'il m'ait touchée sans que je sache s'il était sain ou pas, me terrorise, en fait. Alors qu'il me dit qu'il a fait un test il y a 3 jours, mais je n'ai rien qui me prouve qu'il l'a fait.
Un test de quoi?
De VIH.
Ah, de VIH.
Ouais,
d'accord, parce que
ouais.
C'est quelqu'un avec qui vous allez, vous avez décidé d'avoir une relation, je dirais, officielle. Ça devient votre... régulier, votre
moi, petite... moi, j'aimerais, mais comme là, il ne me répond plus, je ne sais pas ce qui se passe. Il me disait toujours que lorsque je faisais un pas en avant, j'en faisais 2 en arrière parce que j'avais peur, vu nos âges différents. Là, j'ai dit, bah, tant pis, je tente le coup, on se rappelle, on se voit.
Oui.
Et puis finalement, moi, j'ai dit qu'on dormait ensemble, effectivement, ce qui ne me dérangeait pas, mais lui en a voulu plus. M'a touchée, et du coup, je dans ma tête, je me dis, ce garçon est sans doute en très bonne forme, et peut-être que je me fais trop d'idées, mais ça me turlupine toute la journée, en fait.
Est-ce que vous avez passé un bon moment avec lui?
Oui, malgré tout, oui, bien sûr. Oui, alors, il est un peu brusque, mais et il était un petit peu ivre. Donc, j'ai passé de meilleurs moments avec lui. Mais oui, c'était pas désagréable. Non,
d'accord.
Pas désagréable.
Bon, au moins, sur ce plan-là, vous ne vous êtes pas senti forcé ou obligé?
Non.
D'accord.
C'est ce qu'une amie m'a demandé aujourd'hui. Non.
Oui, parce que ça, c'est important aussi pour pouvoir continuer à échanger sur le reste. Bon. Maintenant, il ne vous a toujours pas rappelé. Est-ce qu'il était plutôt réactif lorsque vous... Voilà.
Oui, quand même, oui. Oui, il me répondait. Et là, il me dit qu'il travaille beaucoup, qu'il finit à des minuit, qu'il n'a pas de temps libre. Et là, il me dit, bah, écoute, peut-être que je pourrais passer tous les soirs la semaine avec toi. Et en fait, bah, il ne me répond plus. Je n'ai aucune explication, en fait. Voilà. Je ne sais pas que penser. Je ne sais pas.
Alors, vous avez parlé d'hypochondrie. Est-ce que c'est... Vous le saviez déjà ou est-ce que tout à coup, là, avec ce qui vous arrive, ça devient vraiment...
Avec mes anévrismes au cerveau, oui. J'ai une anxiété... je suis sous anxiolytique, antidépresseur. Et je n'ai pas pu reprendre d'ailleurs mon boulot à plein temps.
D'accord.
Je suis à mi-temps thérapeutique. Et c'est vrai que ça m'a complètement terrorisée. Et le dernier médecin que j'ai vu me dit, après toutes ces opérations, vous serez sûrement en choc post-traumatique. Et je me rends compte que oui, dès que j'ai un petit bobo, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer?
Donc je vous confirme, effectivement, c'est vraiment le symptôme de l'hypochondrie, hein, clairement. C'est on se préoccupe de façon très excessive de sa santé,
voire
parfois de façon très obsessionnelle.
Oui.
D'accord. Bon, Je ne sais pas, en fait, pour tout vous dire, je ne sais pas par quoi commencer.
Moi non plus, je suis perdue, Sana.
Je ne sais pas par quoi commencer. Soit on commence par le loulou qui ne rappelle pas, hein, qui ne se manifeste pas. On se dit, bah mince, qu'est-ce qu'il a tout à coup.
Je ne comprends pas. Oui, voilà, je ne comprends pas du tout. Je lui ai passé des textos, pas non plus 150, hein, 3, 4. J'ai laissé un message ou deux, je crois. Et je n'ai aucune réponse, je n'ai rien. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il ne vous aide pas à vous sentir mieux non plus, voyez ?
Non plus, c'est très clair.
Voilà. Bon, parce que l'hypocondrie, forcément, c'est quelque chose de bien plus profond. Et ce n'est pas en deux minutes que nous allons réussir à solutionner la situation. Bon, alors, ce qu'il y a peut-être de plus simple et de plus, je dirais, accessible aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ce qui se passe avec, votre partenaire, parce que ça reste quand même votre partenaire aujourd'hui. Vous vous donnez combien de temps à subir la situation comme ça?
Pas longtemps, parce que en fait, je suis tellement anxieuse que je sens que je dérape complètement. Oui. Donc, je peux pas subir trop longtemps. Là, ça fait un an que je subis mes problèmes de santé. Qui ne sont pas terminés, parce que je revois mes médecins en septembre. Donc, faut pas que ça dure trop longtemps, en effet. Je serais pas capable, en fait, psychologiquement.
Je comprends parfaitement. Et donc, vous l'avez entendu, hein, on arrive à la fin de l'émission. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle demain.
Avec plaisir.
22h, enfin, après les informations.
Oui,
et,
bien sûr, oui.
On parle de ça et puis on passe en mode action, ok?
Merci beaucoup, Sana. Je vous remercie.
Je vous souhaite une
très bonne soirée.
À vous aussi. Une bonne
à
nuit.
Demain.
À demain.
Merci.
À tous les auditeurs. Demain. Merci beaucoup. Merci donc à tous ceux qui se sont exprimés ce soir, Marie, Nicolas, Catherine et Annie. Je vous donne donc rendez-vous demain à 22h.